Bonjour à tout le monde. C'est vraiment une très grande joie d'être devant vous une nouvelle fois ce matin. Quelle opportunité, merci infiniment. Donc sans plus attendre, commençons tout de suite mes amis, j'ai un PowerPoint. Voilà. Nous allons étudier aujourd'hui la parabole du fils prodigue. Luc 15, les versets 11 à 32. Plongeons-nous dans cette merveilleuse histoire. La parabole du fils prodigue est l'une des paraboles de Jésus sans doute les plus connues que celles que Jésus a racontées. Elle est connue donc sous le titre du fils prodigue, mais en réalité, elle met en scène trois personnages. Celui du père et de ses deux fils. Le terme prodigue signifie une personne qui dépense de façon excessive. Vous avez des synonymes, des termes tels que dépensier, dilapidateur, gaspilleur. Cette histoire est la plus longue racontée par Jésus avec des détails bien précis. Et il est à noter que pour saisir les significations et les enseignements de cette parabole, il est impératif de se plonger dans le monde oriental de l'époque. On ne peut pas simplement prétendre lire cette histoire avec nos regards et notre compréhension occidentale, non. Cette histoire se déroule dans un contexte pleinement du Moyen-Orient. Et c'est pour cela, afin de nous mieux aider à comprendre ce que nous allons étudier, que je vais également y amener les coutumes et traditions juives de l'époque correspondante, qui sont d'ailleurs pour la plupart toujours d'actualité dans cette partie du monde. J'aimerais vous donner un arrière-plan du chapitre 15, toujours important de situer le texte, de l'évangile de Luc. Donc Jésus-Christ est en route vers Jérusalem, il est seulement à quelques mois de la croix et de l'œuvre rédemptrice qu'il va accomplir sur ce bois. Mais en ce moment, il est en train d'enseigner les foules qui vont constamment à sa rencontre. Jésus se trouve en Pérée. Voilà, vous pouvez voir, c'est une région ici, au nord-est de Jérusalem. Et les foules qui lui suivaient se constituaient de diverses catégories sociales, et certaines d'entre eux, de ces catégories, étaient méprisées par la société et le système religieux. On peut lire au verset 1 du chapitre 15... Verset 1, chapitre 15, « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. » Alors donc, les publicains et les gens de mauvaise vie étaient considérés comme la pire espèce de personnes juives. Les publicains, ou les péagers, représentent les personnes qui ont acheté le droit à l'autorité romaine de percevoir des impôts aux juifs requis par les Romains. Imaginez un petit peu la police juive au temps des nazis. Pareil. Les collecteurs d'impôts étaient des profiteurs et volaient leurs confrères au profit pécunier qu'ils récoltaient en chapardant le peuple. Puis, les gens de mauvaise vie représentent les autres styles de vie honteux. Vous avez les ivrognes, les prostituées, les plus bas dans l'échelle de la société israélienne. Ce sont des groupes de personnes complètement marginalisées et personne ne voulait avoir affaire avec eux. Mais également dans cette même foule se trouvaient aussi les pharisiens et les scribes. Les docteurs de la loi, les dispensateurs des lois morales et divines pour le pays. Ils étaient les leaders religieux, les chefs spirituels, et ainsi, par leur position, dictaient les conduites que devait suivre le peuple. Ces chefs religieux ont été d'ailleurs maintes fois réprimandés très sévèrement par Jésus, car leur hypocrisie et leur dictature liaient sur les épaules des hommes des fardeaux pesants sans que eux-mêmes ne les remuent du petit doigt. Si vous regardez Matthieu 23, 4, il lie des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais il ne veut pas les remuer du petit doigt, la religion. C'est d'ailleurs précisément dans ce contexte religieux hypocrite qu'à un moment donné, Jésus invite les foules à venir à lui lorsqu'il dit dans Matthieu 11, les versets 28 à 30, versets très connus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, fatigués de toutes ces dogmes et lois, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, pas celui des pharisiens, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc le joug est en réalité la meule que portent les bœufs autour du cou pour tirer les charrettes et les laboureuses afin de travailler la terre. Et Jésus dit que son joug à lui est doux et léger. Alors imaginez le contraste énorme entre ce qu'annonce le Fils de Dieu et ce qu'enseignent les docteurs de la loi. La religion, mes amis, est un poids que l'homme s'est fait de toutes pièces pour combler et satisfaire les désirs et la volonté de Dieu. Rien ne peut être plus faux, car aucun homme dans toute l'histoire que le monde n'ait jamais connue ne peut s'incomber de cette tâche sans faillir. La religion dit « fait » et Jésus dit « déjà fait ». Le religieux semble blanchi de l'extérieur par ses rites. Christ dit « c'est moi qui te transforme de l'intérieur ». La religion bouscule l'homme à Dieu. Jésus est venu de son trône vers l'homme. Vous voyez toutes les différences? Et Christ va directement au problème, le péché, sans passer par quatre chemins. Pour revenir au texte, regardez le chapitre, le verset 2. Les pharisiens et les scribes sont outrés du fait que Jésus passe du temps avec ces catégories, ces gens de mauvaise vie, ces publicains, car dit-il au verset 2, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Alors, première implication de l'époque, manger n'implique pas simplement de manger avec. Non, manger impliquait une bien plus grande importance que maintenant. Manger en compagnie de telle ou telle personne symbolisait en fait de son appartenance ou plutôt de son association avec. Mais Jésus l'a très très bien fait comprendre. Si vous lisez le chapitre 9, les versets 12 et 13 de Matthieu, je vais vous les lire. Le même contexte où il est critiqué parce qu'il passe du temps avec. Jésus, les ayant entendus, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Dieu prend tellement de plaisir lorsque un pécheur se repent et court à lui. Et voilà une très très bonne transition dans le chapitre 15 de l'évangile de Luc, car justement Jésus raconte trois paraboles où il exprime cette joie de Dieu pour un repenti, un pécheur sauvé, une âme perdue mais retrouvée. Alors on va pas les étudier bien évidemment, mais vous les avez dans vos Bibles à partir du chapitre 15 verset 1, plutôt verset 1. Vous avez la parabole de la brebis perdue. La seconde parabole, c'est de la pièce ou du drachme perdu. Et finalement, notre texte ce matin, celui du fils perdu, mais retrouvé. Alors lisons maintenant Luc 15, les versets 11 à 32, si vous voulez suivre avec moi. Ces versets merveilleux, vous allez voir. Verset 11, Jésus qui parle. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune fils dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » merveilleux texte. Et comme je l'ai dit il y a quelques instants, il est crucial de se plonger dans le monde du Moyen-Orient afin de collecter un maximum d'informations sur les implications du texte. J'ai donc découpé le texte en plusieurs sections afin d'y voir un peu plus clair les différents points. Ceci nous mène donc à notre premier point, une demande honteuse, le verset 12a. Alors, on apprend qu'un père a deux enfants et l'un d'eux, le plus jeune, demande quelque chose d'absolument déplorable. Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Rien qu'en lisant cette phrase, on imagine les pharisiens et les scribes qui étaient en train d'écouter cette parabole pousser un soupir consterné. Comme ça. La société était basée sur un code d'honneur très élevé. Rendre honneur à ses parents, sa famille, était vital pour la vie d'un enfant. Rien que le cinquième commandement stipule très clairement « tu honoreras ton père et ta mère ». C'est une société où il n'y a pas de place pour la honte et le déshonneur. Donc, à l'écoute de cette requête du plus jeune fils, il couvre de honte son père. « Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Alors, question pour vous, à quel moment pensez-vous qu'une progéniture normalement reçoit-elle l'héritage ? Avant ou après la mort des parents ? Après, normalement, la mort du père. Il est impensable de faire une telle demande. En d'autres termes, le fils a dit « Père, j'aimerais bien que tu sois mort, donne-moi ce qui me revient, prétends que tu es déjà mort et donne-moi mon héritage. » Quelle demande honteuse et déshonorante pour un chef de famille. Et qui plus est, le cadet n'avait pas le droit d'usurper la place de son frère aîné. Voyez-vous, le frère aîné est prioritaire sur cet héritage selon Deutéronome 21-17. D'autres passages également, mais celui-là est connu. Mais tout ça pour dire qu'il revient à l'aîné d'avoir en priorité accès à l'héritage familial. Alors, combien pensons-nous que le fils cadet demande à son père ? On ne sait pas précisément, mais l'on peut deviner, car plus loin dans le texte, on apprend que le père possède beaucoup. Il a dans sa maison des serviteurs, il engage très régulièrement des ouvriers journaliers, envers il paye largement plus ce qu'il demande. On apprend aussi que lorsqu'il organise une fête, la fête tout à l'heure on la verra, il emploie des danseurs, des musiciens, il a un troupeau dans lequel il a des veaux gras. Donc tous ces indices nous suggèrent que le père était probablement aisé et bien placé dans la classe sociale. Deuxième point, une réponse surprenante, le verset 12b. Alors, suite à ces demandes, on imagine les pharisiens, qui écoutaient toujours cette parabole, s'attendaient du père, comme il était coutume d'agir lorsqu'un enfant apportait un tel déshonneur à la famille, était de le gifler à travers le visage sans grande force et de le remettre immédiatement à l'ordre. Mais là, non, on lit que le père accède à sa requête et partage son bien et donne la part au fils cadet. Alors la phrase « la part du bien », le mot « bien », là, vient du mot grec « bios », qui signifie « vie ». Le père donne en réalité sa vie de travail. Cet héritage représente le fruit d'une vie de travail. Les pharisiens devaient certainement se poser la question, mais que fait ce père ? Pourquoi agit-il de la sorte ? Nous le verrons. Que fait le fils avec cette part, sa part ? Il est écrit au verset 13, si vous lisez, verset 13, « Peu après, le plus jeune fils ayant tout ramassé. » Alors, celui lui a pris quelques jours, il réunit tout, le terrain, le mobilier, les animaux, cherche un acheteur, et vend le tout pour recevoir que du cash. C'est écrit « ayant tout ramassé ». Et le terme original indique que le bien était en réalité devenu une seule source, un seul gain. Il vend tout et obtient de l'argent liquide. Alors qu'est-ce que cela implique ? Non seulement le fils cadet fait une demande honteuse à son père qui implique qu'il désire que son père soit mort pour avoir son héritage, mais en plus le fait de tout vendre implique qu'il ne veut plus rien avoir à faire avec son père. Il n'est pas intéressé dans le business familial ou une quelconque appartenance à la famille, pas de relation, et le considère dorénavant comme inexistant. Pourquoi croyez-vous que le père accède ainsi à la requête du fils cadet ? Bien, mes amis, n'est-ce pas ce que fait Dieu lorsqu'il offre la liberté totale aux pécheurs ? Il donne par amour, sachant que son enfant lui tournera peut-être le dos, mais il donne par amour. Il lui offre la liberté, le choix. Ce qui nous amène à notre troisième point. Il y en a six en tout. Des versets 13 à 16. Examinons maintenant l'attitude du fils cadet, une conduite scandaleuse. Alors déjà, où se rend-il ? Il est écrit, il partit pour un pays lointain. Alors un pays lointain n'indique pas qu'il est allé à l'autre bout de Jérusalem, hein, ou au nord de la Galilée, non. L'indication « pays lointain » évoque une terre païenne. Lorsque l'on disait « il part pour un pays lointain », c'est qu'il sortait du domaine d'Israël. Il amasse la somme d'argent et part chez les païens. Et pour y faire quoi? Vous allez voir, c'est de mieux en mieux. Dissiper son bien dans la débauche. On apprend même au verset 30 qu'il s'agissait de prostituer. Alors le terme « débauche » au sens biblique, indique aussi l'ivrognerie. Vous connaissez sûrement le verset Éphésiens 5, 18 qui dit « ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche ». L'allusion à ce verset est une allusion donc explicite aux orgies d'alcool associées communément aux cérémonies païennes de l'époque, mais l'idée est là. On sait tous très bien que l'alcool, en abus, dans certains endroits glauques, peut mener souvent à des actes sexuels illicites. Donc, en gros, le fils s'adonne à l'alcool, les filles, la fête, quoi. On a vraiment l'impression que cette pratique n'est pas nouvelle sous le soleil, et toujours d'actualité d'ailleurs. On ne peut qu'imaginer ce que devaient penser les pharisiens à ce moment. Ils devaient se dire, mais quelle conduite atroce, mais quel outrage, quelle honte! Et c'est pas fini, la suite. Verset 14 nous apprend, regardez, verset 14, « Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. » Le fils a tout dépensé, et une famine frappe le pays où il se trouvait. Alors c'est la vie, ça arrive. Lui était au mauvais moment, au mauvais endroit, on dira. Vous savez, une famine est une plaie terrible qui dévaste des régions et des populations entières. Et peu importe si l'on possède de l'argent ou pas, les pièces ne servent à rien quand il n'y a pas de nourriture à acheter, n'est-ce pas? Alors bien évidemment, que fait le fils? Il n'a plus rien, il est dans le besoin, comme il est écrit. Il se trouva dans le besoin. Mais apparemment, il n'est pas encore prêt à réaliser qu'il a touché le fond encore. Au lieu de revenir à lui-même et de constater sa triste condition, il va plutôt trouver refuge auprès d'un habitant du coin. Verset 15, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Alors le terme en français « se mettre au service » n'évoque pas ici le sens complet. Dans la langue originale, il s'agit de « se coller à ». Du terme « colao », coller. Alors je ne sais pas si c'est fait exprès. Peut-être vous avez déjà visité des endroits pauvres, mais là vous voyez l'attitude du fils. Je me souviens très bien de mon voyage en Indonésie, que j'ai eu l'opportunité de visiter avec des amis quand j'étais plus jeune. Nous avons atterri à l'aéroport de Denpasar et avons eu rendez-vous dans un quartier un petit peu plus loin. Et là nous avons dû traverser une ruelle. Et je me souviens très bien que dans cette ruelle, avec tous les bagages, une foule, un groupe d'enfants s'était littéralement jeté sur nous. Vraiment, ils vous poussaient, ils tiraient mon t-shirt, ils vous oppressent, il y a une foule immense, vous ne savez plus quoi faire, en quelques secondes, il y a tout le monde. Vous avez pitié, mais vous vous sentez aussi un petit peu en danger. Vous avez envie de donner, mais honnêtement, vous avez plutôt envie de fuir. Et c'est ce que j'ai fait. C'était une scène terrible. Et dans notre texte, on retrouve ici le comportement du fils qui se colle à cet habitant car il est désespéré. Il n'a plus d'argent, plus rien à manger et essaie désespérément de trouver refuge envers cet habitant. Il se colle à lui. Réaction de l'habitant, toujours le même verset 15, pour se débarrasser du fils. Verset 15, il l'envoya dans ses champs garder les pourceaux, les cochons. Alors j'ai ici une référence très claire qui indique que le juif... Regardez, Lévitique 11, 7 et 8, « Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas, vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort, vous les regarderez comme impurs. » Beaucoup d'autres versets, mais celui-là était très connu. Et ce verset donc indique clairement que les Juifs ne devaient pas manger ces animaux, ni même toucher leur corps mort. Et voilà qu'ils se retrouvent à les nourrir, les garder, les paître. Là, mes amis... Là, il touche le fond. Contexte. Un juif qui a tout perdu dans l'alcool, dans la débauche, et nourri des porcs en terre païenne, Jésus, il a donné l'exemple ultime, en fait. Il faut vraiment se mettre dans la peau des auditeurs qui étaient autour, en train d'écouter cette parabole. Et c'est pire, verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Il se serait réduit à manger comme un porc, pratiquement en devenir un. L'exemple ultime, Jésus donne, un juif qui part en terre païenne, qui devient un porc. En gros, c'est ça. Alors les carouges ou les caroubes sont une graine provenant du caroubier, très indigeste pour l'homme, mais excellent pour le cochon. Pourquoi ? Parce qu'il agit comme un épaississant. Alors voilà, si vous faites attention à votre ligne, lorsque vous achetez un aliment, vous regardez derrière, ça ne sera pas écrit carouge, mais il a le nom plus scientifique aujourd'hui de E410. Donc voilà, vous regarderez, on en a sûrement tous déjà mangé, hein. Le 410. Quatrième point, une repentance désespérée. Les versets 17 à 19. Nous arrivons à une section où le pécheur va enfin réaliser, reconnaître sa condition, qu'il ne peut plus rien faire par lui-même. Et le texte, que nous allons juste voir les prochains versets, nous dit de telle façon qu'on a vraiment l'impression que la repentance sera sincère et véritable. Il dit, verset 17, « étant rentré en lui-même ». Donc, il s'est analysé et a enfin constaté sa triste vérité. Il avait touché le fond. Il réalise enfin qu'est-ce qu'il était devenu. Petite parenthèse, vous savez, Dieu est tellement patient. Il se réduit à attendre des fois que le pécheur touche le fond, la vase, pour que la personne n'ait plus autre choix que de lever les yeux au ciel. Et Dieu est prêt à tendre la main et de le sortir de sa boue. C'est incroyable de penser en quelque sorte que Dieu s'humilie dans ce processus d'attente, que la personne doit toucher le fond afin qu'il puisse lever les yeux au ciel. Mais bien sûr, tout à sa gloire, car nombreux sont les témoignages de personnes qui sont tombées bien bas ou moins bas et qui glorifient le Seigneur par leur salut et leurs histoires. Alors attention, je ne diminue nullement les autres qui pensent que leur histoire, leur conversion n'est pas aussi flash que certaines personnes dans l'Église ou peut-être dans le Fils prodigue. Faux. Toute conversion a son histoire et la part de gloire qui revient à Dieu, je voulais le dire. Ferme la parenthèse. Et là, regardez le verset 17 toujours. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. » Alors cette citation laisse parfaitement croire à la bonté et à la générosité de son père. Cet argument est très très intéressant car il utilise l'exemple des ouvriers qui travaillent dans la maison de son père. Rapidement, un petit mot sur ces ouvriers, pour bien comprendre. Ces ouvriers étaient en réalité au plus bas de la classe sociale. Ils étaient même plus bas que les esclaves. Les esclaves vivaient dans les familles et avaient leurs besoins toujours comblés, souvent plus. Tandis que l'ouvrier, lui, n'avait personne. Il se tenait dans les coins des rues et espérait être embauché pour la journée pour recevoir un denier qui était à l'époque le salaire d'une journée de travail et de dur labeur sous le soleil. Jésus d'ailleurs a donné une magnifique parabole que vous pourrez lire, que vous avez sûrement lu dans Matthieu 20, la parabole des ouvriers. Sachez que, regardez, même l'Ancien Testament, une loi protégeait l'ouvrier. Tu n'exploiteras pas l'ouvrier journalier qui est humble, condition ou pauvre, qu'il s'agisse d'un Israélite ou d'un émigré habitant chez toi dans ton pays. Tu lui donneras son salaire chaque jour avant le coucher du soleil, car étant pauvre, il attend sa paix avec impatience, sinon il en appellerait à l'Éternel contre toi et tu porterais la responsabilité d'un péché. Et oui, forcément, s'il n'était pas payé, en fait, il ne mangeait pas. Et donc, le fils se souvient que son père donnait bien plus que ses ouvriers demandaient, se montrait généreux et bon. Alors, les versets 18 et 19, regardez, « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Le fils prend conscience de ce qu'il a fait, à quel point il a péché, il a déshonoré son père. Autre connotation juive, très importante, lorsqu'un enfant manquait de respect de la sorte à ses parents, il décidait de revenir, il devait attendre aux portes du village ou de la ville pendant plusieurs jours. Le père prend donc quelques jours de réflexion afin de le laisser cogiter. Et s'il désire le reprendre, il lui chargera d'un dur labeur pendant une très longue période de plusieurs années, afin que peut-être il retrouve sa position d'antan. Alors le fils a ça à l'esprit, il va retourner chez son père, se mettre à genoux pour le supplier le pardon, et surtout, comme je l'ai dit, commencer au plus bas dans l'estime et l'échelle sociale de la famille, de la maison, travailler pour regagner la confiance qu'il a perdue, refaire honneur à son père, regagner son estime, son approbation, son autorité, regagner peut-être le rang qu'il possédait auparavant, travailler de toutes ses forces pendant des années afin de reposséder son statut initial et de mériter cette classe et surtout de payer pour son insolence. Et c'est précisément ce qu'avaient les scribes et les pharisiens à l'esprit. Cela correspondait à leur croyance, car c'est comme cela qu'ils percevaient le salut et les mérites de Dieu. Fallait travailler. Tu veux monter à Dieu, tu commences en bas, tu vas en haut, mais faut bosser dur. Alors le fils prépare son speech, comme on l'a lu, de repentance, qu'il allait vraiment démontrer, je pense, d'une sincérité à son père. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne de toi. Laisse-moi te prouver que je peux regagner ta satisfaction, peu importe le temps que cela prendra. » Cinquième point, une réception extraordinaire, les versets 20 à 25. Alors ce point met en valeur l'attitude du père qui est absolument extraordinaire et inattendu. Alors que le fils cadet revient aux limites du village, regardez le texte. Qui voit qui en premier, selon le verset 20? Il se lava, il court vers son père. Il se lava et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Le père voit son fils. Il est même écrit que son père le vit alors qu'il était encore loin. Comme si le père était en train de scruter l'horizon chaque jour pour voir quand son fils un jour reviendrait. Et là, il le voit, contexte juif, il va faire quelque chose d'absolument inacceptable. Il faut comprendre les coutumes de l'époque, sinon on ne peut pas saisir cette scène extraordinaire. Attention, tenez-vous bien, le père va courir. Cela engendre une honte. Un père de famille, chef de famille, dans cette société, ne court pas. Courir est une honte. Et de plus, il faut savoir que les chefs de famille portaient de longues robes, des toges, c'était l'habit traditionnel pour un responsable, et il n'était pas possible de courir avec, sauf si quoi, on relève la jupe, la robe, pardon, c'est pas une jupe, je suis fou, relève la robe, t'es jusqu'en bas, on voyait rien, et ça, il relève la toge, la robe, mais qu'est-ce que cela implique? Qui montre ses jambes. Et ça aussi, c'est totalement inacceptable. C'est honteux dans cette société, à cette époque, on ne montre pas ses jambes. C'est pour ça que j'ai dit qu'on ne peut pas lire ce texte avec notre vision occidentale, parce que moi, si on me voit en slip de bain comme ça à la plage, je dirais, voilà, vous ne serez pas choqués. Enfin, j'espère pas. Mais pour une telle personne à cette époque, c'est extrêmement choquant. Mais il est écrit que le père fut ému de compassion. Et il court vers son fils à travers tout le village afin de l'accueillir et de l'embrasser. Le père se couvre lui-même de honte pour aller à la rencontre de son fils perdu, comme s'il n'avait pas déjà assez reçu de cette honte, de cette opprobre due à l'attitude de son fils cadet. Mais non, il court vers lui et lui évite la honte que tous les habitants lui auraient parfaitement démontrée au fils. Il court vers lui et lui couvre de sa honte. N'est-ce pas ce que Dieu a fait pour nous? Pareil, il est venu à nous, il s'est dépouillé de son honneur, dépouillé de sa gloire, et est venu pour nous couvrir d'amour en prenant sur lui la honte, notre péché. Magnifique. Verset 21, très 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 surprenant. Alors voilà le moment où le fils va pouvoir donner son discours de repentance qu'il avait préparé avec sincérité, je vous le rappelle. Mais là, on remarque quelque chose d'extrêmement flagrant. Bon, c'est facile pour moi de dire ça, je n'ai jamais remarqué avant d'avoir étudié le texte, mais vous allez voir, c'est très très flagrant. « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Verset 21. « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Point. « Traite-moi comme un de tes ouvriers. » Il ne le dit pas, vous voyez? Et pourquoi? Parce qu'il avait parfaitement compris que son père, en courant vers lui pour se jeter à son cou et l'embrasser à répétition, l'avait pardonné et était tellement heureux que son fils soit rentré à la maison. Oh, merci mon ami. Tu étais ému de compassion aussi. Ah, ça fait du bien. Merci. Mais regardez, il était vraiment heureux. Il n'y a pas eu d'obligation de démontrer son travail, ses œuvres, ses mérites, pour de nouveau être reconnu par son paternel. Il le retrouve, le père est dans la joie, et aucun travail n'a été requis pour regagner l'amour de son père. Lisons le verset 22. Regardez l'attitude du père. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Quelle réception, quel honneur le père fait à son fils. Alors revêtez-le la plus belle robe, celle qu'un chef de famille met pour de grandes occasions, parce que là il va y avoir une fête. C'était vraiment un honneur que normalement seulement le père revêt. L'anneau au doigt représente le sceau familial, le droit à être dans cette famille, l'autorité, et le soulier sont également une preuve d'honneur. Vous avez les serviteurs, les esclaves, les ouvriers étaient pieds nus, mais quelqu'un de haut rang avait des souliers, des chaussures. Mais vous savez en fait ce qu'il fait ? Il lui redonne son statut, il l'élève directement à la position de l'héritier, à la place d'honneur en tant que fils. Vous savez, dans le Nouveau Testament, mes amis, il y a tellement de versets qui parle ce que Dieu fait pour nous au moment de notre salut. Il nous fait héritiers, co-héritiers en Christ. J'en ai pris que un, Galates 4, verset 7, qui dit « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Voilà ce que fait le Seigneur avec nous, voilà ce que le Père a fait avec son Fils. Continuons, ce n'est pas fini, la réception continue. « Amenez le veau gras » et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Le père est tellement heureux de retrouver son fils qu'il va préparer une méga fête où tout le monde pourra se réjouir, car voici que son fils était mort, et qu'il est revenu à la vie. La Bible nous apprend grandement sur ce thème de la mort spirituelle. Lorsque quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, lorsqu'il n'a pas de relation intime avec lui, qu'est-ce que la Bible dit ? Qu'il est mort spirituellement. Il est coupé de Dieu, il n'y a pas de relation. Pareil pour le père, il n'avait plus de relation avec son fils, il était mort. Vous avez peut-être déjà entendu des témoignages de familles musulmanes où le fils se convertit, accepte Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, et la famille fait le deuil. Je ne le connais plus. C'est un petit peu pareil l'idée. Le fils était mort, il y avait une coupure, et là il est revenu à la vie. Et Dieu se réjouit tellement pour un pécheur qui se repent et qui vient à lui, que tout le ciel se réjouit. Regardez Luc 15, le verset 7. Luc 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Verset 10, de même je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Le ciel se réjouit pour un pécheur repenti et célèbre et organise une fête céleste qui durera d'éternité en éternité. La fête de Dieu d'ailleurs pour les sauvés est un thème théologique que l'auteur Luc reprend nombreuses fois dans son évangile à 4 reprises en tout cas, et Luc 14 étant la plus connue. Dieu se réjouit tellement, mes amis, quand une âme revient à lui sincèrement, et il célèbre avec lui une place d'honneur et l'élève à une place d'héritier extraordinaire. Et ceci nous mène à notre dernier point, une jalousie amère. Les versets 25 à 32. Alors, n'oublions pas que c'est une parabole qui a pour but d'enseigner à la foule présente, mais bien évidemment, les lecteurs. Et là, la section que nous allons aborder va directement pointer au problème des pharisiens et des scribes et de leurs enseignements hérétiques. Voyez-vous, le fils aîné rentre enfin en scène. Il n'apparaît jamais dans l'histoire. Lorsque le fils cadet fait sa demande honteuse au père, il était du devoir de l'aîné de prendre la défense de l'honneur et l'honneur de la famille, il ne le fait pas. Lorsque le fils prodigue revient et une immense fête est organisée, l'aîné n'y est pas, comme s'il n'avait pas été invité. Et finalement, le fils cadet ne va même pas chercher son père pour lui demander ce qui se passait, mais un serviteur. Alors tous ces éléments indiquent Très clairement, je pense que le fils aîné n'a en réalité pas de relation du tout avec son père. Certes, le fils cadet voulait son père mort pour hériter de la fortune, tout vendre pour avoir que de l'argent, ainsi couper les ponts avec son père et faire ce qui bon lui plaisait. Mais aussi l'aîné va vraiment pécher et se dévoiler. Regardez la réaction. Donc, on apprend verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Alors là, on apprend que le fils revient des champs, probablement après une journée de travail. Il entend avec grande stupéfaction les musiques et les danses. Il appelle un serviteur qui se trouvait devant l'entrée afin de guider les invités, car faut-il savoir que les fêtes, ce genre de fêtes englobait un grand nombre de personnes. Tout le personnel de maison était convié, bien évidemment, mais aussi tous les villageois. Quand le veau gras est tué à l'époque, cela veut dire que l'événement est très important, il faut qu'il soit mangé le jour même, il n'y a pas de stockage de nourriture, et ces fêtes génèrent beaucoup de nourriture, assez pour nourrir d'ailleurs des centaines de personnes. Les fêtes juives sont vraiment réputées pour célébrer quand ils fêtent, ils festoient, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais ils célèbrent vraiment sans forcément des débordements malsains, comme on peut le voir dans certaines fêtes. Ça existe peut-être, mais ils ont cette coutume de célébrer sans déborder de débordements malsains. Alors, le fils appelle un serviteur, qu'est-ce qui se passe? Et le serviteur lui explique brièvement la situation, verset 27. Il lui dit, ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Ton père célèbre son retour. Et notez la réaction au verset 28. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Nous découvrons enfin le cœur de l'aîné, qui, je vous le rappelle, est une leçon directement à la foule qui l'entoure, c'est-à-dire les gens de mauvaise vie et les docteurs de la loi, fils cadet, fils aîné. Il se mit en colère. Alors pourquoi une telle réaction? Il était furieux de l'attitude de son père et de la grâce qu'il montrait à son frère. Le fils aîné dit à son père, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, qui t'a fait honte, qui t'a humilié, qui n'avait rien à voir, voulu avoir à faire avec toi, qui te voulait mort dans sa vie, lui qui t'a rejeté de la sorte, tu célèbres sa revenue gratuitement, sans à ton tour lui montrer de quel déshonneur, quelle honte t'a-t-il apporté, sans lui faire payer ses dettes envers toi, tu le relèves au statut de fils, par grâce. Et ce n'est pas fini. La vraie nature du fils aîné est sur le point d'être dévoilée. Regardez le verset 29. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, c'est je n'ai jamais transgressé tes ordres. » Aïe, aïe, aïe. Vous avez peut-être déjà entendu des gens comme ça, « Ah mais j'ai jamais tué personne, ou j'ai jamais rien fait de mal. » Voilà le parfait exemple du pécheur légaliste qui se justifie lui-même devant Dieu en disant « Je ne t'ai jamais désobéi ». Plutôt orgueilleux, vous ne trouvez pas? Voici le portrait des pharisiens et des scribes, des docteurs qui veulent arriver à Dieu grâce à eux-mêmes et pas grâce à Dieu. Le fils aîné est en colère que le père décide de faire grâce à son fils qui était mort, qui n'avait aucune relation avec son progéniteur, mais maintenant qui est revenu à la vie. Il a horreur de la grâce et du pardon, il est en colère contre son père, et en réalité il dirait ça, je paraphrase, « Père, mais c'est toi qui dois me demander pardon pour ton attitude scandaleuse. » Quel paradoxe. Mais une nouvelle fois, on voit l'amour et l'invitation de Dieu aux deux catégories de personnes. Au pécheur, qui va au plus bas dans le péché, je vous l'avais dit, Jésus a utilisé vraiment l'exemple ultime, un juif qui devient quasiment un porc en terre païenne, il n'y a pas pire, faut se mettre dans le contexte de l'époque, l'histoire du fils prodigue. Et là, on voit qu'il est prêt à pardonner de suite et à célébrer cette réconciliation. Mais également aux religieux hypocrites qui croient mériter l'approbation de Dieu, car ils pensent n'avoir jamais transgressé les commandements. Les deux fils n'ont aucune relation avec le père, en réalité. Les deux sont en dehors du royaume, de la maison. C'est intéressant, un pense qu'il est dedans. Si vous lisez, tant d'années que je te sers, c'est comme si on dirait tant d'années que je vais à l'église, ou tant d'années que je connais le Seigneur, on pense, je n'ai jamais transgressé la loi, voilà le religieux. Les deux détestent Dieu, les deux sont invités, mais un revient, se repent, demande pardon, et immédiatement, gratuitement, gracieusement rétabli, réconcilié, et dans la fête, dans la maison du Père. L'autre, malheureusement, se met en colère et se glorifie. Regardez les versets 28 et 31. Notez l'amour du Père. Verset 28. Donc le fils se met en colère. Son Père sortit et le pria d'entrer. Verset 31. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tout était à disposition. Dans ces quelques lignes, on voit bien l'invitation de Dieu au légaliste de venir à lui et de se réjouir avec lui et de le connaître tel qu'il est vraiment. Il y a un chant comme ça, connaître tel qu'il est vraiment, on chante souvent. Les deux catégories de personnes peuvent recevoir le Seigneur. Voilà. Peu importe le plus vil des pécheurs ou le plus légaliste religieux. Quelle histoire, n'est-ce pas? Extraordinaire, non? Mais je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini pour la simple et bonne raison que cette histoire n'a pas de fin. C'est étrange, non? Une histoire sans fin. Jésus a raconté une histoire sans fin. On reste sur notre fin. J'avais travaillé cette blague, ça n'a pas du tout marché. Ok. On veut savoir le reste. Comment le fils aîné a-t-il fini par répondre à cette invitation? La grâce du Père. Alors très très simple. Jésus connaissait parfaitement bien la fin de l'histoire. Il ne l'a pas racontée car il savait qu'elle allait se réaliser réellement. Quelques mois plus tard, ce fils aîné, les religieux, ont crié deux paroles. Crucifiez-le. Crucifiez-le. Nous ne supportons pas un Dieu qui offre son royaume comme ça. Tuez-le. Voilà la fin de l'histoire. Jésus-Christ qui offrait le pardon, et toujours, des péchés au peuple, à ceux qui se repentent avec sincérité, comme on l'a vu au plus vil des pécheurs ou au plus légaliste religieux, une catégorie ne pouvait pas le supporter et l'a éliminé. De quelle catégorie pensez-vous appartenir? Celle qui pense qu'il mérite le ciel, car il pense être une bonne personne, qui n'a jamais violé la loi? Ou celle qui sait que Dieu est bon et généreux et croit en sa miséricorde et son salut pour fêter, célébrer dans le royaume céleste pour l'éternité? Oui, il a été éliminé, mais ne soyons pas dans la tristesse, mais dans la joie, car il est ressuscité. Et il fallait que la croix se produise, car cette croix a apporté le pardon des péchés. Il a pris sur lui notre honte, notre péché, il est mort, et en ressuscitant, il a vaincu ce péché, vaincu la mort, et lui peut offrir le pardon. Soyons dans la joie. Et je terminerai sur cette parole, un verset, 1 Jean 4,10, qui parle de l'amour du Père. Cet amour, l'amour de Dieu, consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Voilà. Merci infiniment pour votre attention. J'en ai terminé.